autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour nous demander à la fois ce que les technosciences vont faire de nous et ce que nous allons faire avec les technosciences. Car il y a là un défi à relever pour les humains que nous sommes, désormais équipés de prothèses électroniques, téléphones, portables et ordinateurs qui font tout ou presque plus vite et mieux que nous. Qu'avons-nous à y perdre? Qu'avons-nous à y gagner? Sommes-nous déjà transformés par ces nouvelles technologies et qu'est-ce que ça change? Entre fantasmes d'une humanité augmentée, pour le meilleur comme pour le pire, et réalité d'une mutation en marche, nous allons réfléchir ensemble avec nos invités, le prospectiviste Thierry Godin et le chercheur en robotique Nathanaël Jarassé, autour de la question « Quel défi pour l'humain avec les technosciences ?» Bienvenue. Bonjour Thierry Godin.
Bonjour.
Bonjour Nathanaël Jarassé.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à nous poser les bonnes questions sur ces mutations en cours. Question que vous allez vous poser en compagnie de nombreux chercheurs et penseurs à l'Université catholique de Lille du 21 au 23 novembre prochain pour les 89e Semaine sociale de France, consacrée cette année donc à l'homme et aux technosciences. Le défi, un défi que vous relevez si j'ose dire au quotidien, Nathanaël Jarassé. Vous êtes chercheur en robotique, chargé de recherche au CNRS et à l'Imperial College de Londres. Vous êtes spécialisé dans la robotique médicale et de rééducation. Vous travaillez donc à des interactions homme-robot qui améliorent véritablement la vie et le quotidien de ceux qui en ont absolument besoin.
Du moins, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire, de manière générale, on travaille sur des dispositifs interactifs qui nous permettent à la fois donc d'envisager de la rééducation ou de l'assistance à des personnes qui souffrent de troubles moteurs ou sensorimoteurs, mais à la fois, ces mêmes dispositifs, on les utilise pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du système sensorimoteur humain, du système nerveux central, le principe des, les causes et les raisons et les aspects de pathologie. Par ces mêmes systèmes, un exosquelette peut servir...
Une
structure robotique que vous enfilez et qui est capable de suivre vos mouvements, appliquer des forces par exemple. On étudie la possibilité d'exploiter ce genre de structure-là pour la rééducation donc neuromotrice, pas de la rééducation physique, mais de la rééducation par exemple suite à un accident vasculo-cérébral, où vous devez en fait réapprendre à contrôler votre corps. Mais à la fois, ce même dispositif, on va s'en servir pour étudier chez un sujet sain la manière de s'adapter à des champs de force.
Comment ça marche ? Comment marche l'homme,
la
machine est capable de copier ?
Des deux côtés, à la fois on essaie d'avancer sur les neurosciences, sur les sciences fondamentales, la connaissance du cerveau et du contrôle moteur, et à la fois proposer des dispositifs appliqués plus adaptés.
Alors là, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le meilleur des technosciences. Pour le pire, on va y venir un peu plus tard. Thierry Godin, vous êtes ingénieur... Oui. Ingénieur des mines, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des questions de prospective et d'innovation. Vous êtes président de Prospective 2100, une association internationale qui a pour objectif de préparer des programmes planétaires pour le 21e siècle. Votre constat, c'est que nous allons donc faire avec les technosciences, mais selon vous, c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire, justement ?
Moi, je suis un peu méfiant vis-à-vis du terme technosciences. Parce que ça ressemble à ce qu'on disait dans les années 70, la publication de la CFDT à l'époque, qui s'appelait « Les dégâts du progrès ». Et donc, on a commencé à ce moment-là à être un peu sceptique, en disant « Oui, les résultats de la science ont été considérés comme étant bien et bénéfiques à l'humanité, et puis on s'aperçoit qu'il y a les dégâts du progrès ». Mais en fait, je crois qu'il faut parler de techniques précises, comme la robotique, bon, on voit bien à quoi elle peut servir, enfin en tout cas pour la robotique médicale. Mais si vous prenez une autre technique qui est en train de se répandre dans le monde entier, vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près un humain sur trois qui est connecté à Internet.
Un humain sur trois.
Mais il y en a deux sur trois qui sont connectés au téléphone portable.
Ça fait déjà beaucoup, hein.
Et si vous prenez des pays africains, j'ai mon collègue Damiba qui est en train de fonder un centre de prospective à côté d'Ouagadougou, si vous prenez les pays africains, le téléphone portable leur change complètement la vie.
leur permet de passer directement, finalement, il n'y a pas eu de téléphone fixe.
Oui, ils restent en communication avec leur famille qui est dans les villages. Hein. Ils font même des transactions. Vous savez qu'il y a un pays qui est en pointe, qui est le Kenya, avec une monnaie qui est les minutes de téléphone. Et donc, ça change complètement les relations. Les relations familiales peuvent être plus nourries, si vous voulez, et les transactions se font sur d'autres bases.
Donc il faut savoir de quelle technologie on parle.
En court-circuitant le système bancaire. Alors évidemment, si vous regardez cette question, vous vous dites, eh bien, l'Afrique aujourd'hui, avec la fibre optique qui contourne, mais qui n'alimente pas les pays centraux, justement comme le Burkina, le Niger, le Mali, etc., elle a besoin, je dirais, d'une vague d'équipement supplémentaire par rapport à ce qui a déjà été fait. C'est pratiquement indiscutable. Mais d'un autre côté, vous prenez ici des jeunes qui suivent des feuilletons ou des jeux et qui sont complètement captivés et qui ont le mental qui devient un mental qui a plus de relations avec des êtres virtuels dans des consoles de jeux ou même
qu'avec des êtres humains. Donc il faut savoir de quelle technologie on parle et d'où on en parle. On va tout de suite commencer autour de la question: quel défi pour l'humain avec les technosciences? On va tout de suite commencer par quelques pistes de réflexion sonore. C'est le mix de Charles Pélabon entre fantasme et réalité forcément augmentée.
C'est un rêve vieux comme le monde, devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine.
Bienvenue dans un monde où votre corps va être réinventé.
Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus.
Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident.
Le transhumanisme. Ce mouvement cherche à dépasser les limites biologiques de l'homme grâce à la technologie.
Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et par exemple augmenter la mémoire?
La technique et la technoscience sont universelles.
Les athlètes feront n'importe quoi pour avoir les meilleurs avantages possibles.
Go, go, gadget au bras!
Il a choisi de transformer volontairement son corps pour faire face à cette anomalie génétique.
Vous avez un homme malade et vous utilisez une technique pour le réparer.
On évolue tous dans un monde hyper connecté.
En fait, on a déjà tous une prothèse, hein, ça s'appelle un portable.
La question de l'augmentation, c'est pas nécessairement la question de l'amélioration.
Toutes ces technologies, je pense que nous devons les accueillir comme l'ensemble des technologies qui ont transformé notre espèce.
La moitié de ma vie se passe dans le monde numérique.
Maintenant que l'on a accès à n'importe quelle information, on n'a plus besoin d'élargir nos connaissances. Nous pouvons commencer à nous concentrer sur de nouvelles choses, comme l'extension de nos sens et de la perception du monde qui nous entoure.
Est-ce qu'on pourrait définir l'homme contemporain uniquement à partir de sa biologie, ou est-ce qu'il faudrait prendre en compte ses interactions multiples avec la technique ?
Qui veut réagir à cette interrogation du physicien Étienne Klein? Est-ce qu'on peut définir l'homme uniquement biologiquement aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut le définir en tant qu'interactif avec tous les objets techniques qui l'entourent?
Je peux peut-être réagir, puisque effectivement ça fait allusion au transhumanisme qui a un discours assez fort sur notamment les augmentations corporelles, donc toute la technologie qui touche au corps, qui nous intéresse nous beaucoup, puisqu'on travaille notamment sur des dispositifs prothétiques, où là on peut pas du tout parler d'augmentation, mais de réparation, et encore de réparation très très primaire.
Parce que vous travaillez sur des sujets qui sont atteints de...
Voilà, exactement, de personnes amputées suite à des accidents ou des maladies, des choses comme ça, et il y a un gros décalage en fait entre la réalité technique et puis cette espèce de mythologie ambiante qui est alimentée par le discours de mouvements technophiles comme les mouvements transhumanistes
qui eux disent on va finalement repousser toutes les frontières de l'humain,
voilà.
On va s'équiper de prothèses et va devenir très fort et même peut-être immortel.
Qui encouragent, du moins qui soutiennent l'utilisation de technologies pour dépasser notre condition biologique. Alors il y a des mouvements à plus ou moins engagés dans ce virage tout technologique, mais disons qu'il y a un vrai décalage entre d'un côté l'image qu'ont les gens du cyborg, de la prothèse, qui est surtout basée sur des fictions, des produits culturels, de discours technophiles très engagés est très prégnant de ces transhumanistes qui sont assez influents sur les sociétés des nouvelles technologies,
notamment aux États-Unis,
voilà, avec l'université de la singularité qui est soutenue par beaucoup de grands industriels. Mais donc il y a un gros décalage entre cette image là et finalement la réalité technique des patients, les dispositifs qui leur sont proposés. Ça pose un problème, ça pose un problème pour les patients qui en général subissent un choc lorsque on vient pour les appareiller.
Vous ne faites pas des hommes bioniques. Enfin,
nous, on ne fait pas du tout des hommes bioniques. Oui. On a du mal à leur améliorer les conditions de vie avec des prothèses qui sont assez simples. En fait, on se rend pas compte, mais les prothèses ont très peu évolué depuis ces dernières années. Même le discours.
Parce qu'on parle de prothèses qui sont directement reliées au cerveau. Alors, on a des bras directement dirigés.
Tout à fait, mais disons qu'il y a là encore, il y a des éléments un peu, une sorte de mythe là-dessus. Il y a des éléments de langage qui sont problématiques parce que la simplification du discours qui est fait dans la vulgarisation de la technologie, elle a une tendance à faire croire qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses. Le raccourci de langage que vous avez utilisé en disant commandé par le cerveau, commandé par la pensée. En fait, c'est vrai, mais finalement quand on voit sa mise en œuvre, quand on connaît le processus qui consiste à coller des électrodes sur un reste de muscle pour prélever des signaux de contraction musculaire et commander la prothèse, certes, à un moment c'est la pensée, mais c'est très loin d'une fusion de la machine et du cerveau humain.
On en est très loin encore.
On en est encore assez loin. On y arrivera peut-être, mais à l'heure actuelle, on est capable de faire peut-être des prothèses qui localement vont être une augmentation. Par exemple, des prothèses de course qui vont permettre peut-être de courir un peu plus vite que la moyenne des gens, des lames carbone comme équipent certains coureurs
comme étaient équipés en e-sport, voilà. Par exemple.
Mais à la fois, ces mêmes lames vont pas être capables de vous assister dans la vie de tous les jours pour rester statique. Vous allez devoir sautiller en permanence. Vous pourrez pas nager. Vous pourrez pas escalader avec. Il faudra d'autres prothèses.
C'est extrêmement efficace ponctuellement sur une tâche.
Voilà, et il y a un aspect fondamental, notamment pour les prothèses, qui devrait permettre de rendre les gens d'avoir un sens critique plus poussé, pour être plus sceptique vis-à-vis de ce qu'on leur propose dans le discours technologique. C'est par exemple la versatilité du corps humain, cette capacité qu'on a à faire un nombre de tâches incroyables, très diverses.
Et ça, la machine n'arrive pas
à le copier. Et c'est un problème de la robotique. On peut vous faire un robot, si on y passe l'argent et le temps qu'il faut, capable de faire une action ponctuelle. Mais d'enchaîner un grand nombre d'actions différentes et d'être capable d'apprendre, de s'adapter, c'est encore quelque chose, ça, qui reste à mettre en place, à trouver, à comprendre.
Donc, ça n'est pas fait. Nous sommes encore des humains, humans after all. Je propose d'écouter les Daft Punk sur RFI.
We are humans,
Daft Punk, le duo franco-électro sur RFI, We Are Humans After All, mais comme le faisait remarquer Thierry Godin pendant cette chanson, finalement, on ne sait plus si on est humain en entendant les Daft Punk. Est-ce que l'humain est supérieur à la machine? Il l'est toujours actuellement, oui. Nathanaël Jarrès.
Là, il l'est toujours, très franchement, très clairement, notamment parce que si on oublie de juger sur une performance locale, sur peut-être une tâche, par exemple, pour l'intelligence artificielle, au-delà de jouer aux échecs et de battre un humain, quand on considère le catalogue d'actions et de comportements et de raisonnements qu'on est capable d'avoir, il y a encore un grand fossé entre l'humain et la machine.
Entre l'humain et la machine. Thierry Godin, vous qui êtes un prospectiviste, est-ce que vous redoutez que dans l'avenir ce fossé ne se creuse pas justement, mais qu'il se rapproche et que l'homme devienne plus ou moins machine ?
Donc, ce qui me paraît plus inquiétant, je dirais, c'est l'influence économique. Le premier rapport sur les nanotechnologies de la NSF à la fin des années 90 était rédigé par deux transhumanistes, Rocco et Bainbridge. Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, que la Commission européenne a décidé de faire un autre rapport sur la vision européenne des nanotechnologies.
Qui, en fait, était le prisme était par des transhumanistes, donc qui ont une vision singulière de l'homme, qui voudrait le rapprocher de la machine.
Oui, et qui disait explicitement dans ce rapport, ça va servir à faire un guerrier invincible. Donc on voit bien que derrière, il y a le lobby militaro-industriel. Et donc, depuis, si vous vous transportez à Silicon Valley, il y a plusieurs ouvrages sur le transhumanisme. Jean-Michel Beignet a fait quelque chose.
Le philosophe Jean-Michel Beignet qu'on a reçu il y a quelques temps, effectivement.
Très bien sur le sujet, qui s'appelle « Demain, les post-humains ». Si vous vous transportez à Silicon Valley, vous avez en effet toute cette école, l'université de la singularité dont vous avez parlé tout à l'heure,
qui est derrière au fond et qui pousse donc les recherches pour des raisons économiques, pour des raisons militaires, pour que faire des hommes invincibles, donc des hommes proches des machines, puisque l'humain par essence n'est pas invincible.
Il y a des raisons économiques qui sont très très faciles à voir. Je veux dire, une des compagnies leader dans cette affaire, c'est Google. Et Google fait la Google Car, qui est en effet une voiture hyper technologisée dans laquelle les repérages, les sécurités, tout ça peut être assuré par des robots. Mais il y a aussi tout l'aspect persuasion. C'est-à-dire que quand on met en ligne, si vous voulez, des choses qui sont extrêmement persuasives, on guide les comportements d'achat, hein, un peu comme Alibaba vient de le faire en Chine, et on aboutit à de la surconsommation, alors on n'est pas dans Robocop, c'est-à-dire que c'est pas forcément un exosquelette. Hein,
c'est avec beaucoup plus sournois que ça.
C'est de la persuasion.
Ça pénètre dans nos cerveaux, mais d'une autre manière.
Oui. De telle sorte qu'on peut se demander s'il n'y a pas un problème de secte. Si vous voulez, les sectes scientistes ont commencé au XXe siècle. La première, c'était la scientologie.
Et là, ce serait quoi? Une secte des transhumanistes?
La deuxième, c'était les raéliens. Et la troisième, enfin, quand on écoute le discours de Kurzweil, on a
le
quand
chef,
même...
Le chef des transhumanistes.
Qui est, oui, enfin, disons, porte-parole un peu, la tête pensante. Mais toute la direction de Google est favorable. Puisque l'université de la singularité, elle est hébergée par la NASA et financée par Google.
Autour de la question, quel défi pour l'humain, justement, et non, parce que là, on va avoir un flash d'info, donc on va reprendre tout à l'heure, dans 3 minutes, si vous le voulez bien, juste après le flash d'info, autour de la question, quel défi, justement, pour l'humain, avec les techniques, certaines techniques, et cette singularité-là, on se retrouve dans 3 minutes, si vous le voulez bien. À tout de suite.
Caroline Lechowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question quel défi pour l'humain avec les technosciences, défi relevé aux prochaines rencontres sociales de France à l'Université catholique de Lille du 21 au 23 novembre prochain au cours de tables rondes et ateliers auxquels participeront nos invités, le chercheur en robotique Nathanaël Jarassé et le président de Prospective 2100 Thierry Godin. L'occasion pour nous de réfléchir à toutes ces mutations technologiques qui transforment nos manières de travailler, de vivre et de penser, qui transforment aussi nos corps interconnectés entre fantasmes et réalités forcément augmentées.
Je suis vraiment frappé de voir que, en fait, on a déjà tous une prothèse, hein, ça s'appelle un portable. On a déjà cette extension, qui, bon, évidemment, elle n'est pas complètement rattachée au corps, mais on pourrait très très bien imaginer qu'elle le soit vraiment, finalement, qu'elle soit intégrée. Il y a aussi autre chose qui me trouble, c'est on n'apprend plus les choses par cœur. L'homme augmenté, c'est aussi ça, c'est aussi son cerveau qui l'augmente. C'est pas juste les prothèses, avoir un bras de plus ou récupérer ses jambes ou je sais pas quoi. C'est aussi le fait que on délocalise notre cerveau. Voilà, c'est ça. On n'apprend plus les choses par cœur, on fait plus l'effort parce qu'on se dit ça sert à rien. De toute façon, je retrouverai avec Google.
Et voilà, on se retrouve avec Google. En fait, on délocalise notre mémoire sans même y penser. Que vous inspire cette réflexion du passeur et blogueur de science Pierre Barthélémy, Thierry Godin?
Ça, c'est Michel Serres a très, très bien expliqué en disant « L'homme est un animal dont le corps perd. »
Ne cesse de perdre depuis toujours, finalement.
Là, il a commencé par perdre, en effet, ce qui lui servait pour la locomotion, et puis ce qui lui servait pour transporter, et puis maintenant, il exporte aussi une partie de ses fonctionnements cérébraux.
Mais ça, c'est au fond, c'est quoi? C'est l'humain? C'est comme ça qu'a évolué l'humain depuis toujours, avec les premiers outils?
Oui, c'est ce que disait Michel Serres. Alors, bien sûr, mais moi, j'attends quand même qu'on s'interroge et qu'on regarde de très près le drame d'Oscar Pistorius.
Donc homme augmenté, sportif augmenté,
record, etc. Et puis cette
tragédie, il tue sa femme.
Cette tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme de ce personnage et comment ça se fait qu'il est d'un côté complètement poussé l'effort au maximum, aidé justement par des prothèses, et après qu'il est complètement disjoncté, hein,
au point de... C'est un lien, ou en tout cas il faut y réfléchir.
Il faut y réfléchir. Hein, c'est indispensable parce que c'est quelqu'un qui quelque part a fait du forcing. Et a voulu aller trop loin, et je veux dire, la nature humaine, le psychisme, il a ses limites.
Hein. Il a ses limites et en même temps ses ambiguïtés, j'ai envie de dire, hein, Nathanaël Jarassé, parce que finalement, on a tous envie d'être mieux, de vivre plus longtemps. Enfin, on a tous envie, on est tous attirés aussi par tous ces outils technologiques. On en veut de plus en plus et en même temps, évidemment, ça peut nous faire péter les plombs, si j'ose dire.
Bien sûr, mais là, pour le cas Pistorius, je pense qu'il faut quand même souligner, au-delà de la personne, au-delà de la personne appareillée, au-delà de l'être hybride pour certains, même si là on parle de prothèses qui étaient des prothèses passives, donc des lames ressorts en quelque sorte,
qui lui permettaient de courir, voilà, et qui lui ont permis de courir extrêmement
mais,
vite.
Mais il faut voir en fait l'homme, il faut voir le sportif plutôt. Déjà on ne voit pas n'importe quel être humain, c'est un héros, c'est quelqu'un qui est une star, c'est pas le patient amputé lambda
que vous voyez tous les jours.
Voilà, exactement. Donc c'est assez différent, là peut-être qu'il faut peut-être étudier plutôt son côté sportif, sous la pression des médias, du succès, etc.
Mais justement, ce côté sportif sous la pression des médias, sous plein de pressions, fait peut-être que tous ces sportifs-là, ils ont peut-être envie de venir vous voir dans vos laboratoires de robotique. Vous y pensez pour vous dire améliorer nos performances, améliorer-nous.
C'est le problème du dopage. Hein,
c'est une vraie question. Voilà, effectivement, l'augmentation, elle existe depuis un certain temps dans le domaine sportif avec, comme le dit M. Godin, le dopage chimique et tous ces aspects-là. Il y a régulièrement des nouvelles méthodes qui sont utilisées pour gagner un peu en performance. Et c'est souvent, effectivement, par le biais du sport, que des questions sur les performances, jusqu'à où on est prêt pour s'augmenter, arrivent.
Qu'est-ce que vous faites en tant que chercheur? Vous êtes confronté à ça parfois?
Tout à fait,
comment ça se passe?
C'est-à-dire que nous-mêmes, travaillant sur des objets techniques, on se rend bien compte, en fait, qu'on atteint une espèce de saturation de la technologie, dans le sens où on développe des objets avec des améliorations technologiques de plus en plus sophistiquées, mais pourtant, qui sont pas forcément plus utilisés, intégrés, appropriés par les personnes, et on commence à réaliser en fait la dimension non technologique des objets, la dimension sociale, culturelle,
c'est-à-dire que plus une prothèse est technologique et performante, et c'est pas pour ça qu'elle est mieux acceptée par le patient en question.
Disons que la relation n'est pas directe, mais c'est pas parce qu'une prothèse est plus performante technologiquement qu'elle va être mieux intégrée, parce que derrière on touche à beaucoup de choses particulières, l'image du corps, la représentation du corps auprès de la société, le corps sacré, les fractions de la peau, il y a énormément de choses. Alors c'est encore plus cristallisé dans le cas d'un dispositif qui est intime avec le corps, mais c'est valable pour beaucoup de dispositifs technologiques où en fait la performance technique ne fait pas tout, et donc les chercheurs en robotique et dans d'autres domaines commencent à s'intéresser à essayer d'avoir une vision totale, regarder l'aspect biologique, l'aspect culturel, l'aspect anthropologique, de mettre en place des schémas de co-conception pour vraiment en fait percevoir quel est le besoin, percevoir quel est le symbole derrière l'objet technique.
Et les questions éthiques aussi.
Et les questions éthiques, voilà, tout à fait. Par exemple, il y a une semaine, la CERNA, donc une commission de réflexion sur l'éthique des sciences et technologies du numérique de l'Alliance Alisten, a émis un rapport sur l'éthique de la recherche en robotique.
La recherche en robotique, donc dès le départ.
C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas, à l'heure actuelle, avec notamment l'intérêt que porte le grand public pour ces technologies robotiques, par les mythes, les produits de science-fiction, le discours des transhumanistes, etc., on est vraiment guetté sur ces recherches-là. Elles sont tout de suite projetées dans le futur sur d'un tout petit fait scientifique. On imagine ce qui pourrait arriver dans quelques dizaines d'années et les conséquences sociétales que ça pourrait avoir. Nous aussi, nous rendons bien compte de la nécessité de penser ces points-là, au moment de la recherche, de bien, en fait, les chercheurs se rendent compte que leur développement, notamment parce qu'on fait des recherches technologiques, pas fondamentales, donc beaucoup plus facilement transférables, on prend conscience en fait de l'impact sociétal, culturel que peuvent avoir nos recherches, et donc petit à petit, on réfléchit à se munir d'une sorte de déontologie de la recherche en robotique.
D'autant plus utile, alors, dans certains domaines, notamment dans le domaine dont on a moins parlé, des sciences cognitives, des neurosciences, où il y a énormément de découvertes en ce moment, notamment sur le cerveau, autour de la question quel défi pour l'humain avec les technosciences. Je vous propose l'éclairage d'un de nos plus éminents chercheurs en neurosciences, Stanislas Dehaene, qui explore le fonctionnement de notre cerveau, depuis les réseaux du langage, de la lecture, du calcul, jusqu'à approcher les codes même de la conscience. C'est le titre de son dernier livre. On écoute Stanislas Dehaene.
Dans le domaine des neurosciences, les technologies jouent un rôle absolument fondamental, et je crois qu'on peut espérer des progrès très importants, très rapidement, dans les prochaines années. L'initiative Cerveau, lancée par le président Obama aux États-Unis, est très largement orientée vers ce qu'on appelle les neurotechnologies. Et pour vous donner une idée de ce qui est proposé, ce ne sont pas des propositions au long terme, c'est vraiment dans les années qui viennent, cartographier tous les neurones d'un animal, voir chacun de ces neurones en activité environ 50 fois par seconde, de manière à reconstruire l'ensemble des décharges d'un cerveau. Ça sera possible d'ici quelques années. C'est déjà possible chez certains animaux qui ont été transformés par génie génétique. Interfacer le cerveau, créer des interfaces, il y a un projet actuellement aux États-Unis, de telle sorte qu'on puisse augmenter la mémoire. Appuyez sur un circuit et la mémoire que vous êtes en train d'essayer d'enregistrer sera augmentée. Vous en souviendrez mieux le lendemain. Nous allons devenir, dans une certaine mesure, des hommes augmentés par le biais de ces technologies. On peut, par exemple, aujourd'hui, enrichir le sommeil, approfondir le sommeil, en augmentant la rythmicité des ondes cérébrales, en injectant un très léger courant dans le cerveau qui synchronise les neurones et qui rend les ondes lentes du sommeil plus profondes. Donc, toutes ces technologies, je pense que nous devons les accueillir comme l'ensemble des technologies qui ont transformé notre espèce, comme le papier et le crayon, comme l'imprimerie. Ce sont des technologies profondément transformatrices, mais ni plus ni moins que d'autres changements culturels qui ont radicalement augmenté les compétences de notre espèce. L'usage qu'on en fera dépendra, dans une certaine mesure, de nos systèmes politiques et de nos systèmes éthiques. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'il existe, comme en France, des comités d'éthique qui, très en amont, réfléchissent à ce qu'on devrait permettre et ce qu'on devrait surveiller. Mais sans non plus avoir peur, ces technologies sont développées, la plupart du temps, dans un contexte très bien encadré et pour le bien des patients en particulier, qui sont les premiers bénéficiaires, les gens qui ont un accident vasculaire cérébral, qui ont une tétraplégie, vont être des bénéficiaires très directs de ces technologies.
Thierry Godin, vous voulez réagir à ces propos de Stanislas Dehaene? On comprend bien tout l'intérêt de ses recherches, à la fois pour la connaissance sur le cerveau, mais aussi de ses recherches pour des tétraplégiques, des gens qui ont été victimes d'AVC. Il faut des comités éthiques, parce que c'est une question qui ne revient ensuite après qu'à nos politiques.
Ah oui, mais le comité national d'éthique, il a été créé au début des années 80. Il est présidé par Amaïsen actuellement.
Jean-Claude Amaïsen, oui.
Jean-Claude Amaïsen. Donc c'est très utile qu'il y ait cette réflexion. Ceci dit, je ne sais pas si ces avis sont toujours suivis des faits. En tout cas, moi la réaction que j'ai à ce que vient de dire Dehaene, c'est finalement ces techniques, c'est beaucoup de l'exploration. Et évidemment,
l'exploration du cerveau en l'occurrence, exploration.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, demain, la sonde Rosetta.
C'est demain, hein, l'atterrisseur Philae va atterrir, se poser sur la comète.
Atterrir sur la comète, 10 ans de travail. Hein. On ne va pas y aller en tant qu'humain sur cette comète. On ne pourrait pas revenir de toute façon. Hein. Et quand il s'agit d'explorer le système solaire, d'explorer le fond des mers, d'explorer ce qu'on ne connaît pas encore, je veux dire, l'apport des robots à la connaissance est immense et indispensable. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas se limiter, je dirais, aux robots qu'on peut porter sur son corps ou qui peuvent pallier à des déficiences corporelles. En plus, évidemment, nous avons tous, en effet, des robots mentaux qui sont l'accès à tout le système d'information que vous connaissez, puisque maintenant, on peut interroger par Internet une quantité d'informations qui était absolument inaccessible.
Donc ça c'est du plus, c'est du plus pour la connaissance. Là où ça pose question ou problème, c'est sur la manière dont cela est appliqué et qui voilà. En décide si ce sont les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques.
Alors la connaissance, ça sert à quoi?
Ouais, c'est ça au fond la question finalement.
C'est ça la question. Et nous, la réponse que nous avons est très proche de ce que dit France Deval, avec son l'âge de l'empathie. Hein.
L'éthologue France Deval.
L'éthologue France Deval, où il met l'accent sur le fait qu'on a l'habitude d'imaginer des civilisations dans lesquelles les gens sont opposés les uns aux autres, alors que ce qui fait civilisation, ce qui fait les groupes sociaux, ce qui fait les entreprises, c'est au contraire une communication positive, coopérative et une empathie. Alors nous prétendons que cette empathie ne doit pas se limiter à l'espèce humaine. Elle doit aussi, et c'est le travail des éthologues, s'étendre au monde animal, voire à l'ensemble de la biosphère. C'est ce qu'on appelle la thèse du jardin planétaire.
Thèse du jardin planétaire qui inclurait les machines aussi et les robots.
Les robots étant des intercesseurs ou des moyens pour cultiver ce jardin planétaire.
Donc pour mais mieux communiquer. Que des moyens. Mais là, c'est dans le meilleur des mondes possible, ce que vous dites.
Non, ce que je dis, c'est il y a un repositionnement des finalités.
Pourquoi? Pourquoi faire?
Voilà. C'est ça. Si on ne s'est pas posé la question de pourquoi faire, et le pourquoi faire évident pour le siècle qui vient, c'est l'espèce de l'unité du vivant. Hein, l'unité du vivant. Et l'homme étant le jardinier, puisque jardinier c'est le gardien, hein, c'est la même étymologie, de la planète et de lui-même. D'où effectivement une réflexion qui dépasse, qui va à la philosophie, qui va aussi dans la direction des religions.
Donc une réflexion transdisciplinaire qui n'a plus peur des technologies, mais qui dit qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi faire. Il faut que ce soit notre tête et notre esprit qui en décident.
Absolument.
Nathanaël Gérassé.
Oui, je suis assez d'accord avec le discours qu'on a entendu juste avant. Effectivement, je pense que la technique doit être considérée comme la dimension culturelle de la technique doit vraiment être considérée. Et c'est pas parce que on ne parle plus d'un silex ou d'une pierre à feu qu'on va parler de robotique ou de dispositifs comme ça que on va avoir forcément à opposer machine et humanisme au niveau de technologie auquel nous sommes arrivés. Je pense que, comme le disait par exemple Gilbert Simondon, l'objet technique, voilà, qui a beaucoup pensé l'objet technique. Certes, nous sommes arrivés à un niveau de complexité et de virtualité peut-être un objet technique dématérialisé, mais ça reste quand même l'expression, une expression humaine et culturelle d'un schéma mental, et c'est un objet de communication entre les personnes.
Donc c'est pas être pour ou contre, c'est comment faire avec, quoi.
C'est comment faire avec, mais c'est surtout, je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision manichéenne. Ça sera forcément, un équilibre à trouver entre réflexion sur l'impact sociétal, mais en même temps ne pas brider la recherche, parce que comme l'a dit Monsieur Godin, la robotique de manière générale a permis déjà des grandes avancées. C'est comme si on avait bloqué l'ordinateur à une époque. Le développement de l'ordinateur a eu des conséquences sur la science à différentes échelles et sur notre civilisation. Donc c'est part de nous, et c'est quelque chose qui doit être réfléchi, encouragé, et réfléchi de manière interdisciplinaire, comme vous l'avez dit.
Et bien, je vous propose d'y réfléchir en musique avec Christine and the Queens. Le morceau s'appelle Chaleur humaine. Sur la fille. Chaleur humaine, oui, nous aussi on vote pour la chaleur humaine avec Christine and the Queens sur RFI. Autour de la question quel défi pour l'humain avec les technosciences, je vous propose un dernier éclairage, c'est celui de l'anthropologue Daniela Cerchi, qui se pose, elle, la question de savoir comment et surtout pourquoi rester humain dans ce monde en mutation. Ce sera le thème de sa table ronde à Lille, dans ces semaines sociales de France. On écoute son éclairage en forme d'alerte.
Nous avons pris une direction qui n'est pas celle de rester humain. Je m'explique, on est en train de chercher la performance à tout prix, on est en train d'essayer de mettre la barre toujours plus haut en améliorant, en augmentant les compétences de l'humain, avec pour risque qu'à un moment un saut qualitatif s'opère et qu'on ne soit plus humain. Donc je dirais que la tendance prise par notre société, c'est une quête de caractéristiques qui ne sont pas forcément celles de l'humain. Sommes-nous vraiment conscients du type de société que nous sommes en train de construire? Parce que, par exemple, en termes d'égalité, on a affaire à des technologies dont on nous dit qu'elles sont des technologies égalitaires, des technologies qui sont des technologies au fond d'aplanissement des hiérarchies, qu'on va vers des hiérarchies non pyramidales. Et moi, je crois bien au contraire qu'on est devant des technologies qui sont créatrices d'exclusion, qui sont créatrices de beaucoup plus d'inégalités, et c'est de ça qu'il faut vraiment fondamentalement prendre conscience. Déjà, si on parle seulement de technologies réparatrices par rapport à certains handicaps, handicap. Hein. On se rend compte qu'on a affaire à des technologies qui sont des technologies toujours plus pointues, donc des technologies toujours plus chères aussi. Et il y a tout simplement une question d'accessibilité en termes de coûts qui va se poser dans une société de demain dans laquelle tout le monde n'aura pas, tout simplement pas les moyens de se permettre ces technologies.
Qui veut réagir sur cette question quand même de l'inégalité hein, d'une société à deux vitesses qui se préparerait, Nathanaël Gerassé?
Alors je pense qu'il y a un élément assez important, effectivement pas mal de points qu'il faut surveiller sur le développement et l'arrivée de certaines de ces technologies dans notre vie quotidienne. Et ça, ce que soulève Madame Cerqui, ce sont des thématiques classiques de l'éthique sur ne pas favoriser les inégalités, ne pas être conscient. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même à certains de ces développements-là parce que on a une tendance à fantasmer l'objet techno-scientifique, à imaginer des réalités qui sont des réalités techniques qui sont très très loin de la réalité des laboratoires et des hôpitaux, et à se permettre des débats sur, par exemple, sous prétexte que c'est la prothèse, sur l'inégalité que ça peut causer, les problèmes de coûts, etc. C'est effectivement des choses auxquelles il faut envisager, mais il ne faut pas aller trop loin là-dedans. On ne se poserait pas la question on se pose rarement la question du prix d'un fauteuil roulant, par exemple, pour une personne.
Or, c'est à ce niveau-là, effectivement, quand il s'agit d'une prothèse pour quelqu'un d'amputé.
Donc, on parle de coûts très importants. Donc, ça remet en cause des choses au-delà de l'aspect scientifique ou technologique qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que malgré tout, j'ai une certaine vision positive de l'avenir parce que même les comités de développement technologique réfléchissent de plus en plus à ces aspects-là.
Et puis Thierry Godin, vous soulignez hein, en tout début de cette émission à quel point les nouvelles technologies dans les pays du Sud, c'est un moyen justement de rester humain et de se développer.
Ben, indiscutablement, mais la question c'est aussi la préservation des civilisations anciennes.
Voilà. Comment on fait quand on va si vite aujourd'hui pour garder ce qui est important de garder?
J'étais plusieurs fois en Amérique du Sud ces dernières années et c'est clair qu'on sent cette opposition entre des grandes villes, les capitales assez modernistes, à l'américaine avec du business, et puis les civilisations rurales anciennes qui ont peut-être de notre point de vue plus de sagesse parce qu'elles savent vivre en équilibre avec la nature.
Donc il y aurait peut-être à chercher là aussi notre future modernité.
Oui.
L'équilibre.
Je pense très sincèrement qu'ils ont des enseignements à nous transmettre.
L'équilibre, hein, vous disiez, oui, Nathanaël Gerassé. C'est l'équilibre entre finalement une accélération des techniques et un savoir traditionnel. Vous parlez d'empathie, de lien.
Ce qui ne les empêche pas d'utiliser d'ailleurs les techniques contemporaines. Hein. Ce qu'on appelle les peuples premiers, les plus de 200 hein, qui sont répartis sur toute la planète. D'abord, ils ont de plus en plus de pouvoir, puisque par exemple en Bolivie, vous avez déjà un président de la République qui est un Aymara. Vous avez les Inuits, vous avez les aborigènes d'Australie, tous ces gens-là n'hésitent pas.
Ils sont aussi interconnectés.
Ils sont aussi sur Internet.
Bien sûr.
Ils sont aussi sur Internet. Ils ont des choses à nous dire. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est il y a une pulsion de la puissance qui a traversé tous ces perfectionnements technologiques, et cette pulsion de la puissance, elle nous amène à surconsommer, à détruire les ressources naturelles. Et dans ce siècle, il va falloir prendre un virage. Et le virage que nous appelons, nous, jardin planétaire, c'est effectivement de se remettre en harmonie avec la nature, en empathie avec la nature. Parce qu'il ne suffit pas, si vous voulez, de supprimer les émissions de gaz carbonique par
C'est changer quoi? Changer quelque chose dans nos têtes, dans nos manières de faire? Mais on en est loin quand même, malheureusement.
Dans nos manières de nous comporter, oui, bien sûr. Mais ça, je veux dire, tous les éléments nécessaires du point de vue de la sagesse existent.
Oui, ils sont là. Encore faut-il qu'on aille les chercher.
Depuis des centaines d'années, et même peut-être quelquefois depuis des millénaires.
Mais encore faut-il qu'on aille les chercher. Comment faire pour qu'on aille les chercher, que ce soit sur Internet ou virtuellement
Sur Internet,
ou en
ils sont
vrai.
Présents. Mais il y a aussi peut-être. Je pense que beaucoup des enseignants se sont posé la question et qu'ils font évoluer petit à petit justement les jeunes vers une plus grande symbiose avec la nature. nature, vers quelque chose de, d'un petit peu différent. Ce qui n'exclut absolument pas une instrumentation. Je veux dire, bon, chacun sait que les outils des travaux publics sont des prolongements du corps humain, par exemple.
Donc on peut être et technologique et en empathie avec ses proches,
avec la
nature.
Je pense qu'un point qu'a souligné M. Godin qui est très important, c'est celui de l'éducation et de la culture. Je pense que il y a un manque peut-être de culture technique, pas de culture scientifique, mais culture technique chez les gens. Et donc, ça n'aide pas à les rendre sceptiques, critiques vis-à-vis des développements technologiques.
Mais c'est ça, on est soit trop dedans, soit
voilà,
on en a
c'est-à-dire que les gens n'ont pas toujours les moyens de faire la part entre qu'est-ce qui est mythe, qu'est-ce qui est réalité, et peut-être de mettre un accent un peu plus important dans l'éducation sur la part technique et pas scientifique, ce serait une manière de...
Bah bonne piste. Alors pour essayer justement de faire le lien entre les deux, je vais vous renvoyer sur l'Université catholique de Lille. Ce sera du 21 au 23 novembre prochain avec donc les semaines sociales de France autour du thème cette année, l'homme et les technosciences, le défi. Un défi que vous pourrez relever sur place et que vous relevez tous les deux. Merci infiniment d'être venu le partager, partager toutes ces questions avec nous sur RFI.
Merci à vous.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, c'est un autre genre de question que nous allons nous poser sur les phénomènes spatiaux non identifiés. Pourquoi ces ovnis sont-ils désormais pris au sérieux par les chercheurs et que peuvent-ils nous apprendre? Justement, vous le découvrirez demain, amis auditeurs terriens, avec Guillaume, avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Je vais y arriver. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, continuez de vous et de nous interroger. Merci de votre interactivité, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un nouveau journal sur la Radio Mondiale.